Chapitre 51. Jeudi 17 décembre. Benjamin est allongé par terre et écoute les pieds arqués du fauteuil à bascule crissés contre la surface poisseuse et luisante du lino. Ses articulations lui font très mal maintenant. Le fauteuil se balance lentement. Il craque. Le vent souffle sur le toit en tôle. Soudain, le gros ressort de la porte du vestibule émet un grincement métallique. Des pas lourds résonnent dans le couloir. Quelqu'un tape ses bottes pour en faire tomber la neige. Benjamin lève la tête, mais quand il tente de voir qui entre dans la pièce, la laisse se serre autour de son cou. « Couché !» marmonne Lydia. Il baisse la tête jusqu'à terre, sent de nouveau les franges raides du tapis à longues mèches contre sa joue et l'odeur sèche de la poussière dans son nez. « C'est le quatrième dimanche de l'Avent dans 3 jours, » dit Youssi. « On devrait faire des biscuits au gingembre. »«
Le dimanche, c'est le jour du châtiment et rien d'autre, » dit Lydia en continuant à se balancer.
Marek dit quelque chose en ricanant, puis s'arrête net.
« Rigole si tu veux, » dit Lydia.
« Non, c'est rien. »«
Je veux que ma famille soit heureuse, » dit Lydia à mi-voix.
« Nous le sommes, » répond Marek.
Il fait froid par terre. Un courant d'air frais court le long des murs. Les moutons de poussière tourbillonnent parmi les câbles derrière la télé. Benjamin n'est toujours vêtu que de son pyjama. Il repense au moment où ils sont arrivés dans la maison hantée de Youssi. Le sol était déjà recouvert de neige, et depuis, il avait encore neigé. La neige avait à nouveau fondu et gelé. Il avait été conduit par Marek à travers un parc de véhicules devant la maison, entre des vieux bus enterrés sous la neige et des épaves empilées. Il marchait dans la neige. Ses pieds nus le brûlaient. Marcher dans la cour devant la maison, entre les grandes voitures enneigées, c'était comme marcher dans un fossé. C'était allumé dans la maison, et Youssi était sorti sur le perron avec le fusil de chasse sur le bras. Mais quand il avait vu Lydia, ce fut comme si toute sa force s'était envolée. Elle n'était ni attendue, ni la bienvenue. Mais il n'allait pas résister. Seulement se soumettre à sa volonté, se plier comme le fait le bétail. Il avait simplement secoué la tête quand Marek s'était avancé et lui avait pris le fusil. Ensuite, ils avaient entendu des pas dans le vestibule et Anne-Britt était sortie. Youssi marmonna qu'elle était sa concubine, qu'il devrait la laisser partir. Quand Anne-Britt vit la laisse autour du cou de Benjamin, son visage blêmit et elle tenta de retourner dans la maison et de refermer la porte. Marek l'en empêcha en fourrant le canon du fusil dans la fente de la porte et en demandant avec un petit sourire s'ils peuvent entrer.
« On parle du repas de Noël ?»
demande maintenant Anne-Britt d'une voix mal assurée.
« Le plus important, c'est le hareng et le fromage de tête, » dit Youssi.
Lydia pousse un soupir agacé. Benjamin regarde le ventilateur doré au plafond avec 4 lampes dorées. Les ombres des pales immobiles ressemblent à une fleur grise contre le faux plafond blanc.
« Il faut sans doute des boulettes de viande pour le garçon, » dit Youssi.
« On verra, » répond Lydia.
Marek crache dans un pot de fleurs et regarde l'obscurité au dehors.
« La faim commence à se faire sentir, » dit-il. « On a plein d'élan et du chevreuil au congélateur, » répond Youssi.
Marek va à la table, trifouille dans le panier à pain, coupe un morceau de pain scandinave et l'enfourne. Quand Benjamin lève la tête, Lydia tire la laisse. Il tousse et se recouche. Il a faim et il est fatigué.
« Je vais bientôt avoir besoin de mes médicaments, » dit-il. « Tu t'en passeras très bien, » répond Lydia. « Il me faut une piqûre par semaine et ça fait plus d'une semaine que... »
« Tais-toi !»«
Je vais mourir si je n'ai pas... »
Lydia tire si fort sur la laisse que Benjamin gémit de douleur. Il se met à pleurer et elle tire de nouveau pour le faire taire. Marek allume la télé. Ça grésille. Une voix lointaine parle. C'est peut-être une émission sportive. Marek zappe sans trouver d'image, puis éteint.
« J'aurais dû apporter la télé de l'autre maison, » dit-il. « Il n'y a aucune chaîne câblée ici, » dit Youssi.
« Tu es un crétin, » dit Lydia.
« Pourquoi la parabole ne marche pas ?» demande Marek. Je ne sais pas, répond Yussi. Il y a pas mal de vent parfois, elle a dû bouger.
Répare-la alors, dit Marek. Fais-le toi-même.
Arrêtez de vous chamailler, dit Lydia.
De toute façon, il n'y a que de la merde à la télé, grommelle Yussi.
J'aime bien Let's Dance, dit Marek.
Je peux aller aux toilettes ? Demande Benjamin à voix basse. Tu pisses à l'extérieur, dit Lydia. D'accord, répond-il. Sors-le, Marek, dit Lydia.
Yussi peut le faire, répond-il. Il peut y aller tout seul, enfin, dit Yussi. Il ne peut pas s'enfuir, il fait -5 et c'est loin jusqu'à...
Accompagne-le, interrompt Lydia. Je garde un œil sur Anne-Britt pendant ce temps.
Benjamin est pris de vertige quand il se redresse. Il voit que Yussi a repris la laisse de Lydia. Ses genoux sont raides et une douleur fulgurante envahit ses cuisses quand il commence à marcher. Chaque pas est un supplice, mais il serre les dents pour rester silencieux. Il ne veut pas déranger Lydia. Il ne veut pas l'énerver. Des diplômes sont accrochés au mur du couloir. La lumière provient d'une applique en laiton avec des globes en verre dépoli. Une caisse en plastique du supermarché ICA portant les mots qualité, soins, service est posée sur le sol en vinyle couleur liège.
Je dois chier, dit Yussi en lâchant la laisse. Attends dans le vestibule quand tu reviens.
Yussi serre son ventre dans ses mains, disparaît en soufflant dans les toilettes et ferme à clé. Benjamin regarde par-dessus son épaule, voit le dos rond et fort d'Anne-Britt par l'entrebâillement de la porte et entend Marek parler de pizza grecque. La doudoune vert sapin de Lydia est suspendue à un crochet dans le couloir. Benjamin fouille dans ses poches, trouve les clés de la maison, un porte-monnaie doré et son propre portable. Son battement de cœur s'accélère quand il découvre que la batterie est suffisamment chargée pour passer au moins un appel. Il se faufile par la porte du vestibule, passe devant le garde-manger et sort dans le froid anesthésiant. La réception est mauvaise. Il continue un peu, pieds nus, sur l'allée déblayée conduisant à la réserve de bois. Il devine, dans l'obscurité, les formes rondes des vieilles voitures et des vieux bus recouverts de neige dans la cour. Ses mains engourdies tremblent de froid. Le premier numéro qu'il trouve est le portable de Simone. Il l'appelle et pose le téléphone contre son oreille d'une main tremblotante. Il entend les premières sonneries crépitantes quand la porte de la maison s'ouvre. C'est Yussi. Il se regarde. Benjamin ne pense même pas à cacher le téléphone. Il devrait peut-être courir, mais il ne sait pas où aller. Yussi vient vers lui à grandes enjambées. Son visage est pâle et stressé.
« Tu as fini ?» demande-t-il d'une voix forte.
Yussi avance jusqu'à Benjamin et le regarde. Un accord passe dans leur regard. Il lui prend le téléphone et se dirige vers l'abri à bois. Au même moment, Lydia sort de la maison.
« Qu'est-ce que vous faites ? » demande-t-elle.
« Je cherche encore quelques bûches !»
crie Yussi qui cache le téléphone à l'intérieur de sa veste.
« J'ai fini !»
dit Benjamin. Lydia reste dans la porte et laisse entrer Benjamin dans la maison. Dès que Yussi arrive dans l'abri à bois, il regarde le téléphone et voit qu'il y a marqué « Maman » sur l'écran bleu clair. Malgré le froid, il sent l'odeur de bois et de résine. Il fait presque noir dans la remise. La seule lumière provient du téléphone. Yussi le tient contre son oreille et entend quelqu'un répondre à cet instant.
« Allô ?»
dit un homme.
« Allô ?»«
C'est Eric ?» demande Yussi.
« Non, c'est... »«
Je m'appelle Yussi. Est-ce que tu peux prendre un message pour Eric ? C'est important, on est là-haut, chez moi. Lydia et Marek et moi et... »
Yussi est interrompu par un cri guttural à l'autre bout de la ligne. Il y a du fracas, des crépitements. Quelqu'un tousse, une femme gémit, pleure, puis plus rien. La conversation est coupée. Yussi regarde le téléphone, se dit qu'il va essayer quelqu'un d'autre et commence à faire défiler les numéros quand la batterie rend l'âme. Le téléphone s'éteint au moment même où Lydia ouvre la porte de l'abri et passe la tête.
« J'ai vu ton aura à travers les fentes de la porte. Elle était toute bleue, » dit-elle.
Yussi cache le téléphone derrière son dos, le fourre dans sa poche et commence à ramasser du bois dans le panier.
« Tu peux rentrer, » dit Lydia. « Je vais le faire. »
« Merci, » répond-il, et il quitte l'abri.
En remontant l'allée enneigée vers la maison,
Il voit les cristaux de neige briller dans la lumière des fenêtres. La neige crisse sèchement sous ses bottes. Un bruit traînant et saccadé s'approche par derrière, accompagné d'un halètement. Yussi a juste le temps de penser à son chien, Castro. Il se souvient quand Castro était chiot, comment il chassait les souris sous la fine couche de neige fraîche. Yussi sourit pour lui-même quand le coup à l'arrière de sa tête le fait trébucher en avant. Il serait tombé sur le ventre si la hache fichée dans l'arrière de sa tête ne le tirait en arrière. Il reste immobile, les bras ballants. Lydia remue la hache et la dégage. Yussi sent le sang couler le long de sa nuque et de son dos. Il s'effondre à genoux, tombe en avant, sent la neige contre son visage, agite ses pieds et roule sur le dos pour se relever. Son champ de vision se rétrécit rapidement, mais durant ses dernières secondes de conscience, il a le temps de voir Lydia lever la hache au-dessus de lui.